Alors, on est de retour à Délirium environnemental pour cette deuxième partie, partie inversée de cette émission où André Bellil est venu nous parler de la situation, de la qualité de l'air qui, ma foi, n'est pas reluisante au Québec. On se lance donc dans la revue de presse et on commence par un petit bloc biodiversité. Je vous rappelle que toutes les nouvelles dont on vous parle à chaque émission sont accessibles sur notre site web, le www.radiodelirium.net. Alors, ça a l'air, M. Patrick Bonin, qu'il y a des points chauds dans le monde au niveau de la biodiversité. Là, on parle pas de destination vacances, là.
Eh bien, on parle pas de destination vacances nécessairement. J'ai presque le goût de vous parler du Mont Orford, qui est dans le sud du Québec, qui pourrait être classifié comme un point chaud, un point où justement c'est important de conserver la biodiversité. On se souvient qu'on veut justement modifier le parc qu'il y a là pour mettre des installations, entre autres, je crois, 1400 logements résidentiels, plus ou moins. En tout cas, arnacher un parc, tout simplement, si on peut utiliser ce terme.
Une action illégale au Québec, présentement, je vous rappelle.
Oui, mais je vais vous parler d'un petit peu plus au niveau mondial, parce que c'est intéressant de voir, vous savez, il y a eu une récente grosse conférence en France sur la biodiversité à travers le monde. On a eu encore le rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui nous a dit qu'il y a 15 000, en fait plus de 15 000 espèces qui sont menacées dans le monde. Eh bien, on avait déjà quelque chose comme 25 points chauds dans le monde qui étaient considérés comme des points extrêmement importants parce qu'il y avait des espèces endémiques, donc des espèces qui viennent de la place, des espèces qui sont en sérieux danger, donc menacées par le monde. Il y en avait 25. Et là, pendant les 4 dernières années, on a 400 scientifiques qui se sont penchés sur la question et qui ont réalisé que finalement, il fallait rajouter 9 points chauds à ces 25 points chauds qui existaient là. Donc, on est rendu avec 34 points chauds à travers le monde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces 34 points chauds-là, qui sont des zones géographiques identifiées comme étant vraiment essentielles pour la survie de la biodiversité, eh bien, ça recoupe, ça rallie en fait 75% de tous les mammifères, les oiseaux et les amphibiens qui sont menacés. Donc, 75% de ces espèces-là menacées se retrouvent dans les 34 points chauds à travers le monde. Et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que ces points chauds-là sont présentement, ça fait 2,3% de la surface mondiale. Mais avant, on parlait de 16%. Donc avant, c'était la superficie de la Russie et de l'Australie. Et là, dû à l'activité humaine, les points chauds diminuent. Parmi les points chauds, on rentre en entier le Japon là-dedans. Parce qu'on dit justement, écoutez, le Japon, il y a encore des espèces qui sont là, qui sont endémiques, qui viennent de la place et qui sont menacées. On parle évidemment des fameuses montagnes en Asie. On parle de l'Himalaya autour de ça. Quelques points chauds en Afrique également. Côte est de l'Afrique, beaucoup de points chauds. Au niveau de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, forêts de pins là-bas qui sont extrêmement importants. Donc, parmi la plupart de ces points chauds-là, évidemment, ça se retrouve en région tropicale et subtropicale, si vous voulez, où on a une biodiversité encore plus grande. On s'en souvient, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de pluie, donc beaucoup d'apports en eau pour les plantes et les animaux qui vivent avec. Mais je voulais vous faire une petite parenthèse comme ça, juste pour vous faire réaliser que c'est vraiment, vraiment pas fini, cette histoire d'espèces en voie de menacer, tout simplement, et qu'à tous les années, on a eu des nouvelles études, dont celle-là, que 4 ans d'études quand même, là, 400 scientifiques, pour nous faire prendre conscience qu'il y a 34 points chauds dans le monde. Voilà.
Et puis souvent aussi, ces points-là sont associés à des lieux touristiques très, très exploités. Et là, il y a toute la mode de l'écotourisme qui se développe. C'est une très belle innovation dans le domaine, mais en même temps, soyons aussi vigilants. Beaucoup de personnes mentionnent qu'ils font de l'écotourisme. Vérifiez peut-être avant de planifier vos vacances que ces gens-là font vraiment preuve d'un respect pour les milieux qu'ils visitent et que les pressions qu'on fait envers ces milieux-là en allant les visiter sont pas injustement trop grandes, finalement, envers les milieux. Il n'y a pas que les continents qui sont touchés et que les espèces sur les continents en Baltique, les poissons, ça va pas trop beau de ce côté-là non plus.
Il y a la WWF, le World Wildlife Federation, donc l'Organisation de protection de la nature mondiale, qui vient de sortir un nouveau rapport qui est issu dans la lignée du projet REACH, donc le projet de loi qui doit permettre l'identification et l'élimination progressive des différents produits chimiques les plus dangereux.
Ça, c'est en Europe.
C'est en Europe, effectivement. Alors, le rapport s'est penché particulièrement sur la question de la mer Baltique pour en venir à la conclusion que une bonne grande majorité des poissons qui vivaient dans la mer Baltique et qui étaient pêchés et redistribués sur les marchés de consommation européenne étaient souvent très, très, très intoxiqués par plusieurs produits, dont les fameux BPC, les polychlorobiphényles, les PBDE, donc les retardateurs de flamme bromés. On a déjà parlé de ces produits-là. Des dioxines, des furanes. On en retrouve en grande quantité dans les poissons. Et c'est au point où en 1995, les autorités suédoises avaient lancé la recommandation aux femmes enceintes de limiter leur consommation de harengs et de saumon dans la mer qui provenaient de la mer Baltique. En ce moment, ce que le WWF nous dit, c'est qu'on devrait carrément enlever ces poissons-là du marché européen. Pourquoi particulièrement dans la mer Baltique? Ben, c'est parce qu'en fait, paraît-il qu'il n'y a que très peu de brassage entre la mer Baltique, la mer du Nord et l'océan Atlantique. Et en plus, les eaux de la mer Baltique, qui se trouvent au nord là, de l'Europe, sont particulièrement fraîches et donc ne contribuent à faire en sorte que les polluants se détériorent particulièrement plus lentement dans l'environnement par rapport à des endroits où la mer est beaucoup plus chaude et il y a plus d'activités microbiales et bactériologiques qui font en sorte que les polluants peuvent se détériorer.
Eh bien, merci Hugo. Peut-être rapidement, on parle d'écosystèmes aquatiques. On a eu un petit rapport qui nous dit qu'ici, au Québec et au Canada, la santé des écosystèmes aquatiques ne s'améliore pas vraiment non plus.
Eh bien, c'est M. Louis-Gilles Francard dans Le Devoir qui nous parle du fameux cas des pluies acides. On pense tous que c'est terminé, les pluies acides. On avait des objectifs de réduction au Canada. Eh bien, en fait, il y a plusieurs substances qui provoquent les pluies acides, dont le SO2 qui provient des usines, on se souvient peut-être de Noranda en Abitibi, qui est un gros émetteur, qui a quand même réduit. Donc, il y a également les NOx, en fait, qui proviennent de l'automobile. Et au Québec, on pense avoir une diminution beaucoup plus grande des tonnes de NOx qu'on émet. Eh bien, non. Erreur dans les calculs du gouvernement du Québec, selon un bilan fédéral qui sortira sous peu. M. Francoeur a eu un scoop, comme on peut dire, encore une fois. Et on s'est rendu compte que notre calcul est mauvais parce que, justement, on a encore de plus en plus de voitures en circulation sur le territoire, des cylindrées encore plus grosses, donc des gros chars, et l'augmentation de l'âge moyen des véhicules n'arrête pas d'augmenter, donc on garde nos chars plus longtemps, des systèmes polluants, ce qui fait que justement les lacs et les rivières du Québec, principalement les lacs en fait, seraient encore affectés par cette toxicité acide-là, si vous voulez. Donc, problème au niveau de l'amélioration du pH, ça n'a pratiquement pas changé, et évidemment la récupération biologique, la vie dans ces lacs-là, ben, ça ne s'améliore pas bien.
Les chars, deux chars en ville, ça n'a aucun bon sens. Réduisez. Bien, vous savez que la semaine prochaine, le 16 février, c'est enfin la date que l'on attend depuis plusieurs mois, plusieurs années, voire l'entrée en application du protocole de Kyoto. On sait que c'est une semaine où ça brasse beaucoup, au Canada, au Québec, peut-être, on espère enfin que ça brasse. La semaine dernière, on avait un invité qui nous parlait des automobiles de l'avenir. Hugo Lachapelle, tu as déniché une petite nouvelle qui nous dit que l'hydrogène, c'est peut-être pas l'idéal pour le futur.
Mais en fait, il y a monsieur Normand Parisien, directeur général de Transport 2000 Québec, et Luc Gagnon, un autre membre de Transport 2000, qui est aussi conseiller principal en changement climatique à Hydro-Québec, qui ont signé un article dans la section ID, je crois, du Devoir d'aujourd'hui, en fait, et qui nous dirait finalement que toute la question de l'hydrogène, on met beaucoup, beaucoup d'espoir dans l'hydrogène, malgré le fait qu'il y a quand même un délai d'à peu près 30 à 40 ans avant de pouvoir produire vraiment des véhicules et tout un réseau de distribution, de production d'hydrogène de, bon, de qualité, puis qui fonctionne bien, et puis qui subvient à nos besoins. Alors, en plus, on s'est attardé un peu à regarder dans cet article-là toute la problématique de l'hydrogène, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, l'hydrogène, dans les conditions actuelles, ne nous permet pas vraiment de faire vraiment des bonnes économies d'énergie, et ce, parce que l'hydrogène, c'est surtout une manière de stocker et de transmettre de l'énergie, et non c'est pas une source d'énergie en soi, dans le sens où l'hydrogène est disponible n'est pas disponible à l'état naturel, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, mais elle se modifie constamment dans l'environnement, et donc on doit la synthétiser, on doit la figer et puis la stocker en quelque part pour pouvoir la réutiliser. Et notre manière de le faire, c'est souvent en utilisant des centrales au gaz pour produire l'hydrogène qui va être ensuite utilisé pour produire de l'électricité. Et bon, ce que le message qu'on nous disait dans cet article-là, c'est que finalement, ça n'est pas une manière efficace de gérer l'électricité, de produire l'électricité.
Oui, Hugo, moi, ça me fait penser que, en fait, ben, vous le dites souvent à l'émission, il faut pas mettre tous nos espoirs sur la solution technologique. Ça, c'en est un bon exemple. Puis, ce qui me porte à dire, en fait, que justement, jamais même nos espoirs en quelconque solution technologique doivent nous conduire à l'économie de questionnement par rapport à nos modes de production et de consommation. Puis ce que tu soulèves par rapport à l'hydrogène, ça me rappelle en fait que si c'est pas l'an dernier ou l'année d'avant, je crois que c'est George Bush qui avait en fait financé dans une assez large mesure ce qui pouvait se faire ou la recherche et développement par rapport à l'hydrogène.
Il faisait ça.
Ouais.
Il y a beaucoup de sous qui sont investis dans quelque chose qui est un peu rêveur finalement.
Mais c'est parce qu'en fait ça pourrait être bénéfique dans quelques décennies, mais ce qui est grave c'est que selon moi c'était beaucoup un écran de fumée. Parce que d'une main il faisait ça, puis de l'autre il laissait les industries il laissait aller.
Et voilà, on se rappelle aussi la semaine dernière, Sylvain Casponguet, notre invité, qui nous mentionnait qu'il y avait une recette qui gagnait beaucoup de ces temps-ci, et c'est que l'industrie du pétrole finance en grande partie les activités de l'industrie automobile, qui elle finance en grande partie l'industrie du pétrole. Donc une recette gagnante, on ne la change pas, surtout quand c'est soi-même qui avons le pouvoir. Et l'attitude, entre autres, de George W. Bush nous laisse croire que, dans le fond, il y a un bel écran qu'on met devant la réalité, une réalité qu'on veut cacher.
C'est ça, une inertie, là.
Pour le moment, l'hydrogène est donc pas l'hydrogène, les véhicules hybrides sont donc encore une très bonne solution, mais ce n'est pas la seule. Et par exemple, il y a la ville de Gothenburg en Suède qui propose de rouler à l'énergie produite par ses déchets. Donc elle a décidé depuis 1992 de commencer à faire le virage, et en ce moment c'est assez complet. On a fait le virage en utilisant le biogaz qui provient des bouts des stations d'épuration et qui a été traité spécifiquement pour être combiné à un gaz naturel qui est adapté aux véhicules. Et puis là, il y a des stations-service qui ont été déployées dans l'agglomération pour distribuer le mélange de gaz aux autobus, aux véhicules de la ville et puis aussi aux bennes de collecte de déchets. Donc, pas mal tous les véhicules qui sont utilisés uniquement dans la ville. Et donc, c'est un moyen très peu polluant et c'est de l'énergie pratiquement gratuite qui vient de... C'est de l'énergie qui se dissiperait dans l'atmosphère de nos stations de déchets. Et là, on la réutilise pour en faire du combustible à véhicules. Et ça, c'est pas mal fameux comme projet.
Bien, espérons que ça voit davantage le jour que l'hydrogène. On parlait de mouvement pré-Kyoto en début de bloc. Patrick, en Angleterre, est-ce qu'on est dans une mouvance positive?
Mouvance positive, je crois qu'on est plutôt dans le réalisme accablant. C'est présentement une grosse... En fait, c'était la semaine passée, ça s'est terminé. 3 journées de conférences internationales qui se tenaient à Exeter, en Grande-Bretagne. Désolé si je prononce mal, but I'm not from England. Et le but de ça, c'était justement de prendre un petit peu conscience, parce qu'il y a plusieurs études qui sortent et qui sortent et qui sortent sur les changements climatiques. On a plusieurs données qui arrivent, on n'a pas le temps de mettre tout ça ensemble. Donc, c'était vraiment de regarder est-ce que le fait de couper les émissions de gaz à effet de serre pourrait nuire à la croissance économique. C'était leur but. Évidemment, vous en doutez, ils ne sont pas arrivés à la conclusion si oui, non, peut-être, parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir à ce qu'il paraît. Mais juste vous rappeler rappeler un petit peu les grandes lignes qui sortaient de cette rencontre-là, parce que on prend de plus en plus conscience qu'entre autres, mais écoutez, on s'est rendu compte que dans les 10 dernières années, 9 des 10 dernières années étaient les années les plus chaudes depuis qu'on mesure la température mondiale, soit depuis 1861. On s'est rendu compte que les prédictions du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, soit 2000 scientifiques plus ou moins à travers le monde, prédisent une augmentation de température d'1 à 5 degrés d'ici 2100. Eh bien, les dernières prédictions qu'on a eues, c'est un système informatique, Climate Prediction.net, système informatique, on a 95 000 ordinateurs reliés, 60 modèles, ça c'est à travers le monde, 60 modèles climatiques. Les prévisions vont jusqu'à 12, augmentation de 12 degrés Celsius. Évidemment, vous en douterez très bien qu'en plus, on a eu un autre rapport qui est sorti juste avant qui dit si la température augmente de 2 degrés, ça pourrait être une boucle qui augmente à un rythme effarant, donc un point de levier, si vous voulez, où on commencerait à avoir des problèmes au niveau de la Terre. Et tout ça, je pourrais vous parler de fonte des glaciers, que 1987 glaciers sur 2000 sont en train de fondre. Eh bien, simplement pour vous dire que de plus en plus on en parle, et les recommandations principales, c'est que les pays du G8 doivent changer de façon drastique leur économie pour se diriger. Il y a 10 recommandations par rapport à ça parce qu'ils n'ont plus le choix. Et les changements climatiques, c'est une vérité. Et on en est simplement dans la première phase. On a extrêmement peur que ça devienne le cataclysme un peu partout.
Eh bien, messieurs, mesdames, à Exeter, ou peu importe, le jour où les changements climatiques amèneront une catastrophe d'envergure, mon Dieu, nuisible, néfaste, finale pour l'homme, la croissance économique, il n'y en aura juste plus. Pour reprendre une citation de Sophie Anne Legendre, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura juste plus.
Bonjour, mon nom est Bill Ford, arrière petit-fils de Henry Ford et président de la Ford Motor Company. Ford veut devenir une entreprise verte. En 2005, on va faire 20 000 véhicules sport utilitaires hybrides, soit 6 dixièmes de 1% de tous nos véhicules. Et wow! Ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Agence de protection environnementale des États-Unis nous a classé le pire constructeur automobile en matière de consommation d'essence, et ce depuis 2000. Depuis 5 ans, on est donc classé le pire des constructeurs automobiles, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir, on veut devenir vert, mais il y a du chemin à faire avant de devenir vert. Ford, on peut pas faire pire. Merci beaucoup.
Ford Mustang. Hey. On embrasse les platanes. À gauche, gang. À droite, et à gauche, à droite. Un essuie-glace, un paquet,
cool.
Un
badge.
Avec...
Eh bien, Kyoto arrive à grands pas et qui dit mise en application du protocole de Kyoto dit incidence majeure, on l'espère, sur le monde des transports. On sait que c'est un monde qui est d'une inertie, ma foi, gigantesque. Les politiciens ont l'air d'avoir toutes les misères du monde à faire bouger ce secteur d'activité-là. Donc, on consacre un autre bloc à cette question-là. Hugo Lachapelle, une taxe sur l'essence, c'est possible dans notre monde?
On vous a parlé plus récemment dans l'année, même à l'automne, on vous a parlé de la taxe sur l'essence qui allait être prise par le fédéral, une taxe qui devrait accumuler sur, d'ici à 2010, quelques 5 milliards de dollars qui seraient redistribués aux provinces et aux municipalités. Et aux municipalités. Donc, il y aurait quelques 1,15 milliard de ces beaux dollars-là qui seraient alloués au Québec. Et le gouvernement du Québec serait donc responsable de déterminer comment cet argent-là pourrait être réparti. Et pour le moment, ben, ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'est pas mal ce qu'on nous dit, en fait, dans le Soleil de Québec. C'est que c'est pas mal coulé dans le béton. La taxe fédérale sur l'essence ne sera pas distribuée selon le nombre d'habitants par ville. Et puis, va servir à pallier aux problèmes les plus urgents et donc ne servira pas à promouvoir les transports en commun, par exemple, chose qui avait été fortement réclamée par les groupes de pression. Alors, on entend par problème urgent plutôt payer pour des systèmes de traitement des eaux. Problème urgent, on peut se l'imaginer. Ça avait du bon sens, mais ce qu'on aurait voulu, c'est que symboliquement, c'est que cet argent-là aille plutôt vers le développement de transports en commun. Alors, c'est un peu décevant de voir les décisions du ministère des Affaires municipales pour le moment, mais c'est quand même un bon coup que la taxe soit passée, que ça ait été accepté, et puis qu'il y ait quand même un joli 5 milliards. On pourrait en avoir plus, on peut continuer à en demander plus, mais... pour le moment, c'est déjà un pas de franchi.
En espérant que le gouvernement Charest aille pas jusqu'à pousser l'insulte de servir de cet argent-là pour investir dans la construction de la 25.
Eh bien ça serait dramatique.
Ça serait dramatique. Parlant de la 25, Patrick Bonin, peut-être rapidement, je crois qu'il y a une coalition qui se met en place.
Eh bien oui, vous savez ce fameux projet de prolongement de l'autoroute 25, soit un pont entre Montréal et Laval, ça a été extrêmement décrié par plusieurs groupes environnementaux. Eh bien, ils ont mis l'épaule à la roue, ils ont décidé de créer une coalition. Vous savez, la coalition n'a pas encore de nom parce que nous sommes en différé et nous sommes le mardi. Et ils vont l'annoncer à 11h30 ce mercredi. Donc, on vous donne presque un scoop pour ceux qui nous écoutent. Et c'est à la tête de centre le Conseil régional de l'environnement de Montréal avec Robert Perrault, son directeur. Équiterre devrait également en faire partie. Je ne serais pas surpris, loin de là, que Greenpeace en fasse partie. Donc, vous allez suivre ce qui se passe. Le but, évidemment, c'est de décrier ce fameux projet, cet abominable projet, devrais-je dire, qui va contribuer probablement un apport supplémentaire de 140 000 véhicules à Montréal. Après les périodes de smog qu'on vient d'avoir, il y a moyen de se poser des questions, d'autant plus que ce projet est un projet de PPP, soit un partenariat public-privé, peut-être avec une firme d'ingénieurs du type Lavalin, qui est capable de faire des missiles ou font-ils des missiles? Des missiles, non.
C'est du 155
mm. 155, c'est ça. C'est plus petit, donc des petites balles qui détruisent tout. Mais là n'est pas la question. En fait, c'est vraiment au niveau des impacts environnementaux et de ne pas penser de faire simplement de pistes cyclables ou envisager de faire de trains sur... En fait, ça va à l'encontre lorsque tu construis des autoroutes. T'encourages pas le transport en commun, d'autant plus qu'il y a un nouveau métro. Vous connaissez l'histoire. Soyez à l'écoute, voyez, c'est le fun d'entendre ça parce que ça va changer les choses. Tant qu'à parler d'automobile...
Allons-y.
Je sais pas si vous connaissez Ford. Ford est une brillante compagnie. Qu'on s'amuse à rire un petit peu d'eux parce qu'entre autres, ils n'ont pas des performances environnementales excellentes. Eh bien, au Canada, vous allez comprendre qu'on a trois grands, soit Ford, GM et Chrysler. Si je ne m'abuse, le troisième, en fait, on est tellement pas des gars de char qu'on le sait même pas nous-mêmes. On sait que c'est pas un japonais. Et bien, nos fameux constructeurs automobiles sont sortis cette semaine. En fait, c'est encore des fuites. Il y a souvent des fuites, des sources informées qui ont dit qu'ils n'avaient aucunement intention, les grands constructeurs automobiles, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'ils feraient à la place pour atteindre les objectifs de Kyoto, c'est peut-être qu'ils étaient pour encourager des projets dans d'autres industries et dans d'autres pays. Donc, au lieu de faire des automobiles qui polluent moins, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont acheter sûrement de l'argent ou
acheter de l'argent.
Qu'est-ce que je dis là? Ils vont sûrement se servir d'argent pour acheter des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est avec l'idée justement que nous, on négocie, en fait, notre gouvernement négocie depuis 2002 pour imposer une diminution de 25% des émissions de gaz, en fait, les émissions tout court de ces véhicules-là. Et ça, c'est d'ici 2010. La Californie a voulu passer une loi et les grands constructeurs nord-américains sont en train de poursuivre la Californie, disant que cette loi n'est pas correcte, c'est mal, c'est méchant, ils peuvent pas atteindre ça. Donc, les Canadiens disent, ça n'a aucun sens qu'on réduise nos émissions de gaz, nos émissions des automobiles lorsque, justement, on est en train de poursuivre la Californie parce qu'ils nous ont imposé la même chose. Donc, d'après vous, est-ce que les grandes compagnies vont réduire de façon volontaire au Canada leurs émissions de gaz à effet de serre et leurs émissions de polluants, parce qu'il n'y a pas juste des gaz à effet de serre? Eh bien, il y a très, très peu de chances. Mais ce qu'on apprend quand même, c'est que M. John Efford, ministre des Ressources naturelles, a refusé de commenter ces informations. Eh bien, si vous ne le saviez pas encore, M. John Efford couche avec l'industrie automobile et du pétrole, et M. Stéphane Dion, ministre de l'Environnement, essaie de faire une place là-dedans, mais le lit est trop petit. Donc, il se retrouve toujours par terre, sur ses genoux, attiré sur la couverte. Eh bien, s'il a besoin d'aide, nous allons le porter volontaire. C'était l'image de la semaine avec les GM Ford Chrysler.
Eh bien, peut-être en terminant, Hugo Lachapelle, une petite nouvelle cocasse, rapidement. Pour que les autos roulent, il faut qu'il y ait du pétrole, quand même.
Moi, je voulais laisse une petite mise en situation. Capitaine, capitaine, un bateau, un pétrolier s'approche à l'horizon. Oh non, il va entrer en collision. Il y a deux pétroliers qui se sont plantés l'un dans l'autre en pleine mer Méditerranée à 23 km des côtes de l'Égypte. Et c'est, ben, 1500 tonnes de pétrole. Et là, c'est moins drôle. Ils se sont déversés dans la mer Méditerranée. Et ce qui est encore de moins drôle, c'est que la déclaration des autorités portuaires égyptiennes a été « On va s'occuper de cette marée-là si elle approche nos côtes. »
Yannick, je bois pas de café, fait que là ma contribution.